Tzadik Vav Amoud Aleph, vous en avez des photocopies ici, c'est qui m'entend. D'accord. Et nous sommes dans dans les lignes étroites. C'est ça, il faut compter à partir du haut. Bon, on va trouver ça tout de suite. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 lignes. Vous comptez à la ligne 20. À côté de là où est écrit Réchit Yudalet. Comme ça. Vous avez trouvé ? C'est très bien. Vayahalek alehem laïla. Hu va'avadav vayakem. Là, puisque nous avons parlé de la guerre de Sanhérib, alors nous parlons au passage de la guerre d'Abraham. Et c'est pourquoi ? Parce que nous avons dit que la guerre d'Abraham et la guerre de Sanhérib étaient à peu près la même chose et qu'elles étaient comparables à une troisième guerre, celle de Gog et Magog. C'est ça ? C'est très important. Donc il y a la guerre d'Abraham contre les rois, la guerre de Sanhérib contre Hizkia, très bien, génial, et la guerre de Gog et Magog, qui toutes les trois représentent la même chose, la lutte de la périphérie contre le centre. C'est-à-dire l'ensemble des nations agit comme une périphérie, Israël comme un point qui est au centre. Le Maharal de Prague explique que la périphérie s'oppose au centre, parce que la périphérie est majoritaire et le centre est exceptionnel. Ce qui fait exception, ce qui est, disons, hors du commun, souffre de l'opposition du commun. D'accord ? Ce qui explique beaucoup de choses, l'antisémitisme par exemple, etc. D'accord ? C'est-à-dire que la nature a horreur des différences. Or, Israël est par définition différent des autres, donc il attire à lui cette opposition qui doit se régler soit par Abraham, soit par Hizkiyahu, soit par le Mashiach lors de la guerre de Gog et Magog. Voilà. C'est donc, il y a quelque chose de similaire. Alors, donc, ici, on amène le verset « Vayahalek alehem laïla ». Il se partagea ses armées contre eux pendant la nuit. « Hu va'avadav » lui et ses serviteurs. « Vayakem » et il les frappa. Amar Rabbi Yohanan. Alors, c'est quoi cette histoire de Laïla ? Ce qui préoccupe ici la Guémara, c'est pourquoi ça se passe pendant la nuit. C'est-à-dire, la guerre d'Abraham se passe pendant la nuit. Il harcèle les armées ennemies pendant la nuit. Amar Rabbi Yohanan, Otom al-Arch nizdamen lo le Abraham, l'ange qui est venu pour aider Abraham, Laïla Shmo, a pour nom Laïla. Chez Néhémar, ainsi qu'il est dit, Vehalaïla Hora Gaver. C'est l'ange, Laïla, qui a présidé à l'engendrement de l'homme. Alors, c'est quoi cette histoire d'un ange qui s'appelle Laïla ? D'abord, à quoi sert la nuit ? Et pourquoi quand on dit que quelque chose est un ange, on pourrait dire la nuit, c'est la nuit. Mais on dit que la nuit est un ange. Un ange, c'est toujours l'expression de la volonté de Dieu. On peut dire d'une certaine manière que l'ange, c'est Dieu lui-même exprimant sa volonté sur un point précis. Par exemple, la volonté de Dieu de guérir s'appelle Raphaël. La volonté de Dieu de surmonter s'appelle Gabriel. D'accord ? La volonté de Dieu de faire une collection de timbres s'appelle Philatiel. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, le nom de Dieu associé à tel ou tel objectif. Et donc, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, Laïla étant un ange, ça veut dire la nuit en tant que remplissant un rôle dans le projet du Créateur. Oui. Anivelo Malar, ça veut dire que ce qui s'est exprimé lors de la plaie des premiers-nés n'était pas une volonté particulière, mais ça représentait l'ensemble du projet de la création. C'est-à-dire la volonté qui est à la source de toutes les volontés. Exemple de cela, par exemple, imagine un architecte qui veut construire une maison. Alors il a une première volonté, c'est de construire une maison. Et cette première volonté se subdivise en des centaines de milliers de petites volontés. Des grandes et des petites et des moyennes. Par exemple, la volonté de trouver un entrepreneur. Et la volonté de commander des matériaux de construction. Alors, la volonté de commander des matériaux de construction implique le désir de lever le téléphone, qui se subdivise en plusieurs choses. Le désir également de composer le numéro, etc. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il y a une volonté qui se subdivise en beaucoup de volontés. Il y a une volonté créatrice qui est à l'origine de tout et qui se subdivise en milliards d'anges, en myriades d'anges, comme on dit. Et c'est ça que ça veut dire. Ani velo malach, lors de la plaie des premiers-nés, la plaie des premiers-nés était l'expression de la toute première volonté et pas d'une volonté accessoire. D'accord ? C'est ça que ça veut dire. Donc, la même chose pour Laïla. Laïla est un ange. Ça veut dire quoi que Laïla est un ange ? Il y a un rôle de la nuit dans l'histoire. Alors, à quoi sert la nuit ? La nuit, c'est le contraire du jour, je crois, n'est-ce pas ? Le jour, c'est le moment où l'on voit, et la nuit, c'est là où on ne voit pas. Donc, on peut dire que le jour donne le sentiment, l'intuition de l'être, et la nuit, du néant. D'accord ? Et pour que des êtres apparaissent, il faut qu'il y ait un néant préalable. C'est ce qu'on appelle en hébreu Yesh Me'ain. L'être vient du néant. Et il faut qu'il y ait ce qui veut dire que s'il y a déjà un être, pour qu'un autre être se manifeste, il faut qu'il y ait une certaine néantisation du premier être. N'est-ce pas ? Exemple de cela, l'accouchement. Dans le corps de la femme, eh bien, il y a ses entrailles, son ventre qui prend toute la place. Il faut néantiser, c'est-à-dire faire un vide. Oui, une sorte de tzimtzum. Il faut une sorte de vide pour que un autre être puisse grandir en elle. Donc elle fait la place. Elle fait un néant. Et ce néant permet l'apparition d'un nouvel être. N'est-ce pas ? Donc, ces moments de vide qu'il y a entre les êtres, ce sont des moments fécondateurs. Ils sont très importants. Par exemple, quand on voit, par exemple aujourd'hui en politique, on voit une déliquescence totale de tous les cadres politiques, il n'y a plus rien dans la classe politique. Sentiment de désespoir. C'est normal. Quand quelque chose doit naître, il faut que quelque chose disparaisse. Il y avait une expression de Bergson qui disait « Quelque chose qui se fait à travers quelque chose qui se défait. » Imaginez un nœud. Un nœud que l'on détache, et puis quand on le détache, il forme un autre nœud. D'accord ? Eh bien, c'est un peu ça, le « laïla ». C'est-à-dire que, d'ailleurs, on voit bien, la preuve qu'amène la Gemara pour prouver que Laïla est un ange, on dit, il amène l'ange qui est préposé à la fécondation. « Laïla amar hora gaver ». C'est un verset de Yov. Ça veut donc dire que ce que doit faire la guerre réussie de Gog et Magog ou celle d'Abraham, elle doit donner naissance à un monde nouveau. Donc elle doit faire disparaître, d'une certaine manière, l'ordre ancien pour permettre un nouvel ordre. Et donc, c'est un ange appelé Laïla qui est intervenu pour Abraham. Voyez-vous ? Je pense que c'est clair. Bon. Ben, nous allons continuer.
Tout simplement que d'après la logique, pour attaquer un adversaire, pour le surprendre, c'est déjà la nuit.
Oui, bien sûr. Mais le problème, c'est... Tu as raison de dire que pour attaquer, c'est mieux d'attaquer la nuit que le jour. Mais pourquoi est-ce que la Torah a jugé nécessaire de nous en parler ? C'est-à-dire, il y a beaucoup de détails dans la guerre d'Abraham qui n'ont pas été racontés. On ne sait pas comment est-ce qu'il a habillé ses troupes, et on ne sait pas exactement quel était le type d'arme qu'il portait, etc. Tout ça n'est pas dit. C'est-à-dire que si la Torah choisit d'insister sur un point, c'est que c'est ce point-là qu'elle veut mettre en évidence. D'accord ? Verabi, Itzhak... Hein ? La nuit, c'est la galoute, c'est la même chose. Toutes les absences sont des nuits. Et la galoute permet de faire naître quelque chose. C'est pour ça qu'on dit que le Mashiach est né le jour de la destruction du Temple. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui commence à germer à ce moment-là, dans les profondeurs. D'ailleurs, dans la première fois qu'on parle de nuit et de jour dans la Torah, on n'appelle pas ça Laïla et Yom, mais on appelle ça Erev et Boker. Erev, c'est là où tout est mélangé. Boker, là où on peut faire la différence. Les vaker, bikoret. Bon. Verabi Yitzhak Napha Amar. She'asa immo. Tandis que Rabbi Yitzhak Napha explique ça d'une autre manière. She'asa immo ma'ase laïla. C'est-à-dire, d'après Rabbi Yitzhak Napha, qui est un élève de Rabbi Yochanan, ce n'est pas qu'un ange est apparu, mais c'est qu'Abraham a agi avec l'aide de la nuit. C'est-à-dire que les étoiles ont lutté pour Abraham. C'est-à-dire quoi que les étoiles ont lutté pour Abraham? Ça veut dire que la victoire d'Abraham fait partie de l'ordre du monde. C'est ça? Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, à propos de Barak, Minshamaim nilhamu akochavim silotam nilhamu imsisra. Depuis le ciel, on a lutté. Même les étoiles de leur trajectoire ont lutté contre Sisra. Amar Resh Lakish, Taba de Napra midebar Napra. C'est mieux ce que dit Napra que ce que dit Bar Napra. Non, pas du tout. Rabbi Yochanan, son vrai nom, c'était Rabbi Yochanan Bar Napra. D'accord? Simplement, c'est supposé su par le lecteur. Alors il dit, je préfère ce que dit Rabbi Yitzhak Napra à ce que dit Rabbi Yochanan, qui est Bar Napra.
C'est curieux que l'élève de Metz n'ait pas le même.
Enfin, ça arrive, hein?
Ça a tellement répondu ce que l'on dit Napra.
Ça peut arriver. Ça veut dire quoi, Napra? Un forgeron. Bah, c'est donc un nom qu'on peut trouver facilement. D'accord? D'accord. Donc il préfère ce que dit Rabbi Yitzhak Napra. Pourquoi? Parce qu'il préfère quelque chose qui s'insère dans l'ordre du monde que quelque chose d'exceptionnel. Vayirdov ad Dan. Et il l'est poursuivi jusqu'à Dan. C'est-à-dire quand Abraham a poursuivi ses ennemis, il est arrivé jusqu'au lieu appelé Dan. C'est quoi ce lieu appelé Dan?
Le futur appelé Dan.
Qu'est-ce qui s'est passé à Dan? Il y a beaucoup de choses qui sont passées à Dan. Une des choses les plus graves, c'est le veau d'or construit par Jéroboam. C'est-à-dire le roi Jéroboam, pour faire un culte alternatif à Jérusalem, a fondé un culte avec deux veaux d'or, un à Bethel et un à Dan, qui sont les deux extrémités, les deux frontières de son royaume. Bethel étant la frontière sud et Dan la frontière nord. Et donc Dan, c'est le lieu de la faiblesse. Hein?
C'est pas la
Samarie. La Samarie. Pas du tout. Non, la ville de Samarie était la capitale du royaume d'Israël. Mais Dan et Bethel étaient les extrémités. Et dans ces extrémités, il y avait des temples avec des veaux d'or. D'ailleurs, on a retrouvé à Tel Dan l'esplanade sur laquelle probablement était le veau d'or en question. Le veau, on n'a pas retrouvé.
Dan, c'est un rapport avec le chevet ?
Oui. Alors Dan, c'est un rapport avec la tribu de Dan.
C'est un peu...
Il y a quelque chose d'anachronique. Comment se fait-il que le texte emploie une expression anachronique ? Cette objection est très ancienne. Elle a été reprise d'ailleurs par ce qu'on appelle la critique biblique, qui affirme que c'est la preuve que le texte de la Torah est très postérieur aux événements relatés. Puisque du temps d'Abraham, il est évident que cet endroit ne pouvait pas s'appeler Dan, puisque la tribu de Dan n'était pas encore née. Et même du temps de Moshe, la tribu de Dan existait déjà, mais elle n'avait pas encore pris possession de cet endroit. Pourtant, on voit que dans la description de ce que voit Moshe avant sa mort, on dit qu'il voit le Gilad jusqu'à Dan. Là aussi, il y a un problème.
Il y avait déjà eu le Rif avec le Boral.
Peut-être. Peut-être que ces versets ont été écrits plus tard. Les versets concernant ce qu'a vu Moshe. C'est écrit, oui, la Guémara dit que c'est Yehoshua qui les a écrits. Donc ça, encore, ça pourrait tenir. Mais enfin, Dan, du temps d'Abraham, ça ne tient pas debout. Ah, comment comprendre? Alors voyons depuis quand est-ce que cette ville s'appelle Dan. Cette ville est mentionnée aussi bien dans le livre de Yehoshua que dans le livre de Shoftim. La conquête de la ville de Dan est mentionnée. Alors, ça vaut la peine de voir ça dans le texte. Pour ce, je vais me déplacer voir. Vous savez ce qu'il faudrait qu'il y ait dans cette synagogue? Des tanachim.
pas mal non plus.
Il y a plus grand. Ouais. Il y a plus lourd. Bon, on va faire une grue. Alors, je voudrais par exemple citer le verset tel qu'il est. Vous savez quoi? Je veux dire dans Shoftim. C'est-à-dire, le récit est amené deux fois. Dans Yehoshua et dans Shoftim, comment est-ce que les Danites ont fait la conquête de cette ville? Voilà. Donc les Danites, qui vivaient dans la région de ce qu'on appelle aujourd'hui le Gouche Dan, justement, se sentaient à l'étroit. Et donc ils cherchaient où faire une conquête pour s'établir, n'est-ce pas? Alors ils ont entendu dire qu'il y avait très loin une ville du nom de Laïch. Vayavo al-Laïch. Ils vinrent sur Laïch, qui est appelé d'ailleurs dans Yehoshua du nom de Lechem. Lechem Laïch, c'est à peu près la même chose. Al-Am Shoket Uvotear, contre un peuple tranquille et sûr de lui, Vayaku Otam les Fihare, Vetahir Sarfu Baesh. Ils les frappèrent passèrent au fil de l'épée, et ils ont brûlé la ville. Ve'en Matsil, personne ne pouvait les sauver. Kirechokaim Tsidon, car c'était une ville éloignée de Tsidon. Vedavar en lahem imadam, ils n'avaient pas de rapport avec les hommes. Vehi ba'emek, asher lebet rechov, elle se trouve, cette ville, dans la plaine, dans la vallée de Bet Rechov. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui Etzba à Galil, là où il y a Kiryat Shmona. Vaivnu et Tahir, vaishvuba, ils construisirent la ville et s'y installèrent. Vaïkreou Shemaïr Dan. Ils appelèrent la ville du nom de Dan. Beshem Dan Avihem Asher Yulad le Israël. Au nom de Dan, leur père, qui était né à Israël. Veulam Laïch Shemaïr Larishona. Mais c'est Laïch que se nommait la ville en premier. Donc l'objection est forte. Hein? Pas du tout. Il dit. Ils nommèrent la ville Dan du nom de leur père, Dan. Ça veut dire que jusqu'à présent, la ville s'appelait Dan, mais pas à cause de leur père.
J'entends pas ça du...
Pas du tout. Il faut prouver ce que je dis. Le nom Dan était le nom d'une divinité cananéenne. Il y avait une divinité cananéenne, émoréenne plus précisément, qu'on appelait Dan. Qui est mentionné d'ailleurs dans la Guémara et dont on a plusieurs témoignages archéologiques. Donc il y avait une divinité du nom de Dan. Et donc il est tout à fait possible que la ville s'appelait Dan et que c'était cette ville-là que Abraham a rencontrée sur sa route. Par la suite, cette ville de Dan a reçu le nom de Laïch ou de Lechem. Et quand les Danites sont arrivés sur cette ville, ils ont dit on va la rebaptiser Dan comme son nom ancien parce que c'est le nom de notre ancêtre.
Sinon, il n'y aurait pas eu marqué parce que c'est le nom.
Exactement. Bechem Danaviem. D'accord? Vous avez compris? Bon, ça explique tout. Voilà. D'ailleurs, il faut bien comprendre. Quand la Torah explique un nom de ville, ou le nom d'un homme, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas l'explication qui est donnée par la Torah qui est la raison pour laquelle on a donné ce nom. Exemple. On appela cette ville Babel, qui Sham Bala Lachem, car là-bas Dieu a mélangé leur langage. Alors si Babel, c'est à cause de Balal, il faudrait l'appeler Balel, n'est-ce pas? La véritable raison pour laquelle cette ville s'appelle Babel, c'est qu'en acadien, qui est la langue des Babyloniens, Babel, ça veut dire la porte du ciel. Bab Ilou, comme en arabe, Bab. Bab, ça veut dire la porte, n'est-ce pas? Iftah al-Bab. D'accord? Bab, elle, c'est-à-dire la porte du ciel, la porte de Dieu. Shahar HaShamayim, si vous voulez, un peu la même chose. Et la Torah, par dérision, explique « Alken Karashima Bavel », il convient de nommer cette ville Bavel, parce que c'est là-bas qu'a eu lieu le mélange. D'accord ? C'est comme par exemple, dans la paracha de cette semaine, tiens, on dit « Vayavo ad Nahal Eshkol », ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshkol. Pourquoi elle s'appelait Eshkol, cette vallée ? Non, pas du tout, parce qu'il y avait un Cananéen qui s'appelait Eshkol. Aner, Eshkol et Mamré, c'était les trois alliés d'Abraham, n'est-ce pas ? Qui étaient dans la région de Hébron. Et donc les explorateurs arrivent dans la vallée d'Eshkol, la vallée nommée ainsi à cause de Eshkol, le Cananéen allié d'Abraham. Après on nous dit, « Vaïchretou Misham, Zemora, Veshkol Anavim » De là-bas, ils prirent un sarment et une grappe de raisin. Vaïsaou Bemot Bishnaim, et ils le portèrent avec le bâton pour faire le truc du ministère du tourisme. Et on dit, la Nahalahu, Emakomahu Kara Nahal Eshkol. Cet endroit est appelé Nahal Eshkol, Alodota Eshkol, à cause de la grappe qu'ont pris les enfants d'Israël. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand ils arrivent à Nahal Eshkol, Eshkol c'est sans vave. Et l'ami d'Abraham, l'allié d'Abraham aussi, est Eshkol sans vave. D'accord, dans le texte dans la Torah. Mais quand ils prennent une grappe, là-bas écrit Eshkol avec un vav, et le nom change de Nahal Eshkol sans vav à Nahal Eshkol avec un vav. C'est donc pour nous dire, c'est vrai que ça portait le nom d'Eshkol l'ancien, mais il mérite bien son nom, cet endroit, puisque de là on a pris une grappe. Vous avez compris ?
Bon. Ça signifie quoi le
vav ? Ça veut dire que pour dire une grappe, on dit Eshkol avec un vav. Mais non. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence de prononciation, c'est la même chose. Il n'est pas impossible que dans l'Antiquité, il y avait une différence entre le cholam plein et le cholam vide. C'est ça ? Cholam malé, cholam rasé.
Donc c'est l'inverse des goyim. Les goyim, ils prennent le nom de ce qui s'est passé.
Oui.
Le nom a précédé.
Oui, le nom a précédé.
Il y a de la chance que ce soit le même.
Oui. Par exemple, vous avez Beersheva. Du temps d'Abraham, il conclut une alliance avec Avimelech. À Beersheva, il lui donne là-bas 7 brebis, et on appelle la ville Beersheva. Une génération plus tard, avec Yitzhak Avinu, il rencontre Avimelech, peut-être le même, ou Avimelech le second, peut-être, peu importe, et là-bas, il conclut un pacte à côté du puits, et ils appellent le puits Shivra, Alken Shemair Beersheva. À cause de cela, la ville s'appelle Beersheva. Alors qu'elle s'appelait comme ça déjà du temps d'Abraham. Ça veut donc dire, ils ont appelé ça Shiva, et ça explique rétroactivement pourquoi est-ce qu'on avait déjà appelé cette ville Beersheva. Voyez-vous ? C'est souvent comme ça. Donc c'est la même chose pour Dan. Voilà, bon. Il y a d'autres théories aussi pour expliquer ça. Enfin, on va se contenter de celle-là. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan disait, ça veut dire quoi qu'Avram a poursuivi jusqu'à Dan ? Amar Rabbi Yochanan, Kevan Sheba Oto Tzadik Ad Dan, lorsque ce juste, c'est-à-dire d'Abraham, est arrivé jusqu'à Dan, Tachash Kocho, sa force s'est affaiblie. Vous voyez, il les poursuit pendant toute la vallée du Jourdain, il arrive au-delà du Kinneret, il arrive jusqu'à Dan, à Dan il s'affaiblit. Pourquoi il s'affaiblit ? Ra'a Bene Banav Shadidin La'avod Avodazara Bedan. Il a vu les fils de ses fils qui, dans l'avenir, pratiquerait l'idolâtrie à Dan, chez Néhémar, ainsi qu'il est dit, Vayasem et Taïchad de Bethel, et Taïchad de Bedan. Et car il a mis, il s'agit de Jéroboam, l'un, c'est-à-dire un veau d'or à Bethel, et un autre, il l'a mis à Dan. Ça veut dire que Dan, c'est le lieu de la faiblesse. D'accord ? Il y a une limite à la puissance d'Israël. C'est la frontière qui est à Dan. D'accord ? Oui, alors c'est intéressant parce qu'il y a un texte, il y a un livre qui s'appelle Peri Haaretz, le fruit de la terre. C'est un livre kabbalistique qui a été écrit par deux kabbalistes, Rabbi Moshe Zakout et Rabbi Nathan Shapira, il y a quelque chose de comme 300 ans à peu près, sur Eretz Israël. Un livre de Kabbalah qui explique ce que c'est qu'Eretz Israël. Et il y a une page très belle dans laquelle on parle du fait qu'en Eretz Israël, il n'y a pas de domination des forces malfaisantes, les mazikim. Les mazikim n'ont pas d'emprise sur Eretz Israël. On ne peut pas, c'est une terre sainte. Mais, il y a du côté du nord une petite lucarne par où les mazikim peuvent passer. C'est ce qui est dit. Alors, bon, c'est dit là-bas pour des raisons kabbalistiques. C'est que le nord, c'est le côté faible. Mais effectivement, on voit que toutes les invasions, les grandes invasions qui ont lieu en Israël, sont toujours passées par cette région-là. D'ailleurs, on peut la préciser, il y a, dans le Golan, il y a un barrage naturel, en fait, qui fait que dans le sud du Golan, on ne va pas passer. Il y a là-bas une vallée très encaissée. Au nord, il y a le Hermon. Mais entre la vallée du Rokad et le Hermon, il y a une région où on peut passer, mais il y a aussi des collines. Il y a deux montagnes, entre lesquelles, qu'on appelle Bental et Avital, entre lesquelles il y a quelque chose comme 5 km, à travers lesquelles une armée peut passer. Et c'est toujours par cet endroit-là que les armées qui ont envahi Israël sont passées. D'ailleurs, pendant la guerre de Kippour aussi. D'accord ? Et elles passent et elles continuent dans la région de Dan. C'est comme ça que ça se fait. D'accord ? Et donc, c'est ce que dit ici la Guémara. Il y a, dans la topographie d'Israël, un point de faiblesse, qui est un point de faiblesse dans l'être d'Israël. C'est la capacité qu'a la tribu de Dan de pratiquer la Avodah Zarah. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, la tribu de Dan n'est pas une tribu facile. Hein, ce sont toujours les fauteurs de troubles. Par exemple, lorsque Amalek vient pour s'attaquer à Israël. Alors comment a-t-il pu s'attaquer puisqu'il y avait les nuées de gloire qui entouraient Israël? C'est donc qu'il y avait quelques-uns qui étaient rejetés par la nuée et que c'est ceux-là qu'Amalek a attaqué. Qui c'était? La Guémara nous dit, ben, c'était Dan, les Danites. Et pourquoi est-ce que la nuée les rejetait? Parce qu'ils étaient idolâtres. C'est-à-dire, déjà à la sortie d'Égypte, il y avait une tribu qui avait un tropisme vers l'idolâtrie.
On peut être idolâtre à l'intérieur des nuées.
Mais justement, c'est ça qu'ils ont rejeté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est cet élément dans l'identité d'Israël qui veut se fondre dans les nations. Il y a quelque chose qui a la volonté de l'assimilation en Israël, et ça se traduit par la tribu de Dan. Voyez-vous? Bon. Et alors, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Le Danite a toujours un problème. Est-ce qu'il va être intégré ou exclu? Par exemple, qu'a dit Yaakov Avinu? Dan, Yadin Amo. Dan jugera son peuple. Ke'ahad shifte Israël, comme une des tribus d'Israël. Ah bon? Ça allait de soi pourtant, c'est une tribu d'Israël. Est-ce qu'on a besoin de dire qu'il est comme une tribu d'Israël? Ben, ça veut dire que c'est pas évident qu'il est une tribu d'Israël. Il est toujours à la limite de l'identité. Il pose des problèmes, Dan. D'accord? Et donc, c'est ça qu'Abraham ressent. Mais pour construire le temple, il nous faut un membre de la tribu de Juda, Bethalel, qui est la plus élevée des tribus, dit Rashi, et un membre de la tribu de Dan, Aholiab ben Achisamar, de la tribu de Dan, qui est la plus basse des tribus. C'est-à-dire que la Shekhina ne peut se manifester que si nous possédons l'ensemble des tribus d'Israël. D'accord? Et donc il faut également les casseurs, les qui se cassent les pieds. Comment? Les fauteurs de troubles. Voilà, on a besoin d'eux.
De nos jours, il faut attendre que toutes les tribus arrivent.
Certaines manières, oui. C'est-à-dire que le temple est l'expression de l'unité des différentes factions du peuple. C'est-à-dire le temple ne peut pas être le fruit d'un secteur de la population. Il y a ceux qui veulent le temple et ceux qui ne le veulent pas. Non, il faut que tout le monde le veuille. D'accord ? Les tribus n'ont pas disparu. Elles sont parties. Elles vont revenir. On dit les Éthiopiens prétendent qu'ils sont de la tribu de Dan. Les Éthiopiens, les Juifs d'Éthiopie, prétendent être de la tribu de Dan. J'ai vu un texte surprenant dans Bereshit Rabbati. C'est pas Bereshit Rabba, c'est un autre midrash. Ça s'appelle Bereshit Rabbati, dans lequel il est dit que Hushim, le fils de Dan, était noir. Il y a eu quelque chose. Bon, alors comment est-ce qu'on va faire? Il y a le roi HaKodesh. C'est ça qu'on a besoin des prophètes. Les prophètes, voilà, on va chez Monsieur le prophète, dit, Monsieur le prophète, quelle tribu je suis? Zébouloud. Voilà, c'est comme ça que ça se passera. Bon. Il y aura des surprises. Il y a une tribu noire d'ailleurs en Afrique qui prétend être des descendants des Kohanim, des Lamba. Et il y a eu une vérification génétique. On a trouvé chez eux le gène des Kohanim. T'as entendu parler du gène des Kohanim? Ouais. Et bien on a fait cette vérification chez eux et effectivement ils sont le gène des Kohanim. Et les anthropologues disent que c'est probablement vrai ce qu'ils disent. Ils sont probablement descendants de juifs venus du Yémen il y a 600 ans, quelque chose comme ça, qui sont passés en Afrique. Et ça donnait la tribu des Lamba. Bon. Où sommes-nous? Ve'af oto racha. Et de même, ce méchant-là, quel méchant? Sanhérib. On parle de ça, oui, de Sanhérib. On revient à notre cher Sanhérib. Oui, comment? Non, 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 alors pas du tout. Alors là, on revient. Ce méchant n'a commencé à se renforcer qu'une fois arrivé à Dan. C'est-à-dire qu'il cherche le point de faiblesse dans l'identité d'Israël. Il le diagnostique à Dan et c'est là qu'il se renforce. Chez Néhémar, ainsi qu'il est dit, Midan Nishma Naharat Susav. On entend le ronflement de ses chevaux depuis Dan. Il y a toute une histoire d'ailleurs. Bon, on pourrait développer l'histoire de la tribu de Dan, mais enfin, laissons tomber. Vous savez quoi, je vais vous en parler quand même, la tribu de Dan. Non, c'est important. C'est... Vous savez que, comme c'est raconté dans le Tanakh, il y a toute une série de transferts. Il n'y a pas ici un stylo? J'avais un stylo. Non, il n'y a pas de stylo. Tant pis, que faire? Un stylo pourrait nous aider. Docteur Cohen, vous êtes extraordinaire. Bon. Ça viendra. Vous connaissez peut-être?
Elle est gentille avec la mère morte.
Un peu, oui. Elle est enceinte. Bon. Alors, faisons un petit croquis. Dans cette région-là se trouve la tribu d'Éphraïm. Un peu plus au sud, c'est Binyamin. Encore plus au sud, c'est Yehuda. Et tout à fait au nord, c'est Dan. Dan qui au début était là et s'est déplacé par là-bas. Voilà. Ben, ils n'avaient pas de place. D'accord? Et donc ils ont fait la conquête de la ville de Dan dans le nord. Eh bien, la tribu de Dan va vers le nord. Vous connaissez d'ailleurs le nom de l'étoile polaire? Comment s'appelle l'étoile polaire? Éléonore. Et ils sont passés au moment où il se passait un processus important en Israël. C'est le moment où la tribu de Binyamin s'est emparée des filles de Shiloh. Vous connaissez l'enlèvement des Sabines? Hein? Et bien, il y a eu également l'enlèvement des filles de Shiloh. Après la guerre entre les Binyaminites et les autres tribus, il y a eu un moment où la tribu de Binyamin a presque entièrement disparu, presque totalement décimée. Et pour pouvoir marier ce qui restait de la tribu de Binyamin, parce qu'il y a eu un serment de ne pas donner de filles à la tribu de Binyamin, on a trouvé un stratagème, une échappatoire à l'Arik, et ils ont dit que les Binyaminites allaient rapter les filles de Shiloh. Alors les filles de Shiloh dansaient dans les vignobles et les Binyaminites se cachaient dans les vignes et les ont raptées, n'est-ce pas? Comment? Toubia. Il y a un rapport avec Toubéav que nous n'allons pas développer pour l'instant, d'accord? Et donc ils ont rapté les filles en question. Il y en avait combien? 400. 400 filles. Les Binyaminites étaient au nombre de 400. Et 399 ont enlevé leur fille. Et le 400e ne l'a pas voulu, il était timide. Et c'est elle qui l'a rapté. Qui était le Binyaminite timide en question? D'après la tradition, c'était Shaoul. Le roi Shaoul, qui s'est fait rapter par sa femme. D'accord? La 400e Shilonienne. Et c'est comme ça que la royauté est passée de la tribu d'Éphraïm à la tribu de Binyamin. En effet, qui était le roi d'Israël auparavant? C'était Yehoshua. Yehoshua était de la tribu de Binyamin. Non, de la tribu d'Éphraïm, pardon. Et ça, disons, le passage de la royauté d'Éphraïm à Binyamin s'est produit à ce moment-là. C'est là qu'en fait est apparu le premier roi de la tribu de Binyamin. Donc, si vous voyez, la royauté va du nord vers le sud. Yehoshua, on peut le considérer comme un roi. C'était un roi. Du point de vue de la halakha, beaucoup d'égards. Il n'avait pas de fils, donc la royauté n'a pas continué. Mais, effectivement, c'est lui qui transfère. Peut-être d'ailleurs que la fille en question, qui était la femme de Shaoul, était une descendante de Yehoshua. Ce n'est pas du tout impossible. En tout cas, vous voyez que la royauté part du nord vers le sud. D'accord? La royauté de Shaoul n'a pas tenu bien longtemps. Il a été remplacé par David, qui était son gendre, qui a pris la fille de Shaoul. Vous voyez donc que toujours la royauté passe par une fille, qui est un rejeton de la dynastie antérieure, et donc ça passe à la tribu de Juda. Donc, on voit que plus la royauté se renforce, s'établit, plus elle devient sudiste. Le sud étant le lieu parfait, le nord le lieu imparfait. D'accord ? Au même moment, les Danites refusent de participer à cela et vont vers le nord.
Il y avait personne à cette époque-là, il n'y avait pas de tribu.
Dans la région de Dan, là-bas, il y avait une ville qu'on appelait Laïch, qui était isolée, qui était loin de Tsidon, et qui a été donc massacrée par les Danites.
Non, avec la Chalouka par rapport aux tribus, il n'y avait personne qui avait hérité de cet endroit-là ?
Cet endroit-là, non, personne. D'accord ? Ça appartenait peut-être à Naphtali, si tu veux. Mais enfin, personne s'en était occupé. Les Danites vont vers le nord. Au passage, ils passent par la tribu d'Éphraïm, dans un endroit appelé Beth Micha, dans la maison de Micha. Et là-bas, ils vont s'emparer d'une statue d'argent qui était adorée dans un temple, qui était celui de Micha. Et ils emmènent avec eux le prêtre. Or, le prêtre en question n'était nul autre que le petit-fils de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, le petit-fils de Moshe pratiquait l'idolâtrie dans la région d'Éphraïm. Il est enlevé par Dan et il va fonder une dynastie de prêtres qui vont être au service de la tribu de Dan pendant des siècles. C'est-à-dire qu'ils se mettent à leur tête un roi, une sorte de roi, mais antérieur à la royauté d'Éphraïm. Qui est-ce qui était roi avant Éphraïm ? Moshe, de la tribu de Lévi. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a ici, ils vont à rebours de l'histoire. Les Midrashim, enfin il y a un Midrash qu'on appelle le Midrash d'Eldad Adani, l'histoire de Eldad le Danite, une histoire absolument à dormir debout, mais enfin il y a certainement des éléments de vérité historique dedans, raconte que lorsqu'il y a eu la guerre, lorsqu'il y a eu le schisme entre le nord et le sud, que Jéroboam a voulu faire la guerre à Roboam, en hébreu, Jéroboam a fait la guerre à Rehavam, il a voulu emmener contre Rehavam les meilleurs des soldats de son pays, c'était les Danites. Il leur a dit, venez, on va faire la guerre contre le royaume du sud. Et ils ont dit, non, on ne fait pas la guerre contre nos frères. Ils ont décidé de quitter l'Eretz Israël et de revenir en Égypte. Mais, c'est-à-dire qu'ils voulaient revenir en Égypte, c'est-à-dire au roi d'Israël antérieur à Moshe. Qui c'est qui a régné sur Israël avant Moshe ? Paro. C'est-à-dire qu'ils vont, ils reviennent à l'origine. Mais, comme la Torah a interdit de revenir en Égypte, alors ils sont allés plus loin que l'Égypte. Ils sont allés jusqu'au Nahar Pishon, aux sources du Nil, dans le lieu appelé Nahar Pishon, qui est le premier fleuve du Gan Eden, c'est-à-dire en Éthiopie. Et donc, ils ont cherché donc le premier état de l'état du peuple juif, antérieurement à l'Égypte, et bien nous étions dans le Gan Eden. C'est-à-dire l'identité d'Israël se trouvait déjà là-bas. Donc, on voit qu'il y a chez les Danites un refus du régime politique, ce sont des anarchistes. C'est exactement l'inverse de Yehuda, qui est tout à fait au sud, eux, ils sont tout à fait au nord. Vous voyez donc qu'il y a ici une relation directe entre la géographie et l'identité. C'est la même chose. Alors maintenant, ça explique la difficulté qu'il y a à admettre la tribu de Dan au sein d'Israël. Et là, je voudrais vous citer, tu peux reprendre, un texte dans le livre de Divrei Hayamim. Vous connaissez Divrei Hayamim ? Les chroniques ? Bon. C'est un beau livre, ça vaut la peine d'être lu. Les Divrei Hayamim. Les premiers chapitres de Divrei Hayamim, c'est une liste de familles, c'est des listes généalogiques. Un tel était le père d'un tel, qui était le fils d'un tel, etc. Voilà. Ça n'en finit pas. Des noms et des noms et des noms et des noms. Et là, il y a une liste des membres de la tribu de Binyamin. Alors. Non, pardon, de la tribu de Naphtali. Ici, des membres de la tribu de Naphtali. Naphtali était un fils de De Yaakov, si sa mère c'était qui? Ah. Bila. Naphtali était le fils de Bila. Quel était l'autre fils de Bila?
Dan.
N'est-ce pas? Dan et Naphtali sont les fils de Bila. Et là, regardez, le verset est absolument incroyable. Là, je commence par une liste des fils de Binyamin, après une liste des fils de Naphtali. Alors on dit, voilà, les fils de Binyamin sont Bélar, Becher, Idariel, etc., etc. Et on finit par Veshupim, Vechopim, Benir, ainsi que Shupim et Chopim, fils de Ir. Chushim, Bene Acher. Chushim, fils au pluriel de Acher. Tout ça, c'est dans la liste de Binyamin. Après, on dit Bene Naphtali, voici les fils de Naphtali. Yahatiel, Veguni, Veyetzer, Veshalum, Bene Bila, fils de Bila. Alors, on nous a dit que la liste des fils de Naphtali. Pourquoi est-ce qu'on dit, on finit en disant ce sont les fils de Bila? Oui, mais dans ce cas-là, on aurait dû également citer les fils de Dan. C'est donc que Dan a été cité. Qui était le fils de Dan? Il s'appelait Chushim. Il avait un seul fils, il s'appelait Chushim. Que dit le verset auparavant? Chushim bené Acher, bené Naphtali, etc. Et à la fin, on dit bené Bila. Ça veut donc dire que Dan était appelé Acher. Qui c'est qu'on appelle Acher? Les hérétiques, Elisha ben Abouya. Donc, il est un peu Acher, celui-là. Donc, il y a un problème pour son intégration. Mais finalement, il est intégré. D'accord? Mais ça ne se passe pas facilement. Alors, ça, c'était tout pour vous dire que ça existe, les Bénédas.
C'est de là que l'Agmara a appelé.
Elisha? Non, c'est pas du tout à cause de ça. Non, Stam, on appelait Acher quelqu'un dont on ne voulait pas parler. D'accord? Mais c'est aussi. Mais on voit que ce minhag de la Gemara existait déjà à l'époque du Tanakh. Quelqu'un dont on ne veut pas parler, on l'appelle Acher. D'accord? C'est la brebis galeuse. La honte de la famille. Voilà, on ne veut pas en parler. Ben finalement, il est quand même dedans. Bene Acher. Bon, alors on peut continuer. C'est ça pour vous expliquer ce que c'est Dan. Amar Rabbi Zera. Rabbi Zera disait Afalgav Deshalach Rabbi Yehuda ben Betera Minetzivin. Bien que un truc que je ne comprends pas là. Une seconde. Bon, bien que Rabbi Yehuda ben Betera ait envoyé une missive de Netzivim. Netzivim, c'est une ville au nord de la Syrie. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yehuda de Netzivim? Il leur a dit Izaharu bezaken sheshachar talmudo mechamat odso. C'est-à-dire respecter un vieillard, un sage, qui a oublié son étude par la contrainte. C'est-à-dire il est devenu gâteux. Il a perdu la mémoire. C'est hein? Ben, c'est ce que ça veut dire. Isaharoubé, non, c'est pas. Ça veut dire quoi? Non, c'est Isaharoumé. Il y a Isaharbé, il y a Isaharmé. Isaharmé, ça veut dire méfiez-vous. Isaharoubé, ça veut dire soyez attentif. D'accord? C'est-à-dire soyez attentif à un chacham qui a perdu la mémoire. Voilà. Avant, c'était un puits de Torah. Maintenant, il a complètement oublié. Il faut le respecter pour ce qu'il était. D'accord? Veizaharu bivridin kerabi Yehuda. Faites attention aux veines, comme Rabbi Yehuda. Oui, c'est prenez garde. C'est pas se méfier. Oui, alors. Oui, soyez attentif, c'est ce que ça veut dire. Soyez attentif. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est comme tout à l'heure.
Oui, comme tout à l'heure. Bivridine, c'est pas, faut pas respecter les veines, mais il faut faire attention aux veines. C'est-à-dire, les veines, il faut les vider de leur sang. Comme Rabbi Yehuda le disait, c'est-à-dire quand on fait la shrita, faire de telle sorte que le sang se verse vers le bas, pas que le sang reste dans la bête, comme le coq au vin qu'on fait, coq au sang qu'on fait chez les goyim. Vous savez comment ils font chez les goyim? Ils étouffent un coq, et le sang reste dans la bête, et imprègne les organes. Vous voyez, c'est délicieux. Ouais, mais c'est pas caché. Vous voyez pas. Ouais. Veizaru bivne ameha aretz, shemem tetzetora. Et faites attention aux fils des ignorants, parce que c'est d'eux que sortira la Torah. Oui, c'est-à-dire, il faut. Ne dis pas, puisque son père est un salaud, alors lui aussi vaut rien. Non. Lui, son fils, peut-être qu'il sera un grand chacham. Alors, faites attention à lui. Ki ha milta moda'inan lenu, mais ça, on leur apprend. C'est quoi qu'on va leur apprendre? Eh bien, on va leur apprendre ce que la Guémara dit plus loin du mérite de Nebuchadnezzar. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Nebuchadnezzar avait le mérite qu'il avait hérité de son grand-père et pour lequel il a eu le pouvoir de détruire le temple. Alors, on leur dit aux fils d'Amé Aratzot, faites attention, vous avez le mérite de vos ancêtres aussi. Vous n'avez pas seulement votre mérite.
Par mérite de détruire le temple.
Si. C'est pas n'importe qui peut se permettre de détruire le temple. Et on va le voir par la suite, c'est écrit dans le livre. D'accord ? Bon. Pourquoi je ne prends pas une page plus ? Bon, et ça, on le verra donc par la suite. Bon. Là, se pose immédiatement le problème. Une fois qu'on a commencé à parler de tout ça, on a fini en fait de parler de Sanhérib. Et on aborde immédiatement le deuxième destructeur, c'est Nebuchadnezzar. C'est-à-dire, le problème se pose. Sadrériv a perdu la guerre, on est tout content. Ce sont les bons qui ont gagné, les méchants qui ont perdu. Mais parfois, c'est le contraire. C'est Nebuchadnezzar qui est le méchant, qui a gagné, et c'est les bons, les juifs, qui ont perdu. Comment ça se fait? Alors, on peut dire qu'il y avait les péchés d'Israël, mais c'est insuffisant. Parce que les péchés d'Israël ont été perpétrés par Ménaché, roi de Juda, n'est-ce pas? Pendant 50 ans, il a rempli le royaume de débauche, d'idolâtrie, d'homicide, et il est mort tranquillement, lui. Et c'est son petit-fils Yoshiyahu qui a fait une réforme dans laquelle il a fait faire teshuva à tout le peuple. Il a détruit les idoles, et c'est juste après lui qu'il y a eu la destruction du temple. Alors, quelque chose qui cloche, n'est-ce pas? C'est, on ne peut pas dire que c'est absolument selon l'équation du mérite et du démérite.
Pourquoi c'est marqué que c'est à cause de ça que t'es détruit le temple?
C'est écrit dans le Tanakh que le temple a été détruit à cause des péchés de Ménaché. C'est écrit dans le Tanakh.
Dans l'Agmara, il est marqué que c'est à cause de Shfichotamim Gudarayot.
C'est vrai. De quel Shfichotamim Gudarayot et Avodazara? Qu'a fait Ménaché. D'accord? Ménaché était un grand salaud et on voit ce qu'il a écrit dans le Tanakh. C'est absolument incroyable la quantité de saleté qu'il a fait. D'accord? Et donc, mais finalement, il y a eu une tentative de réparer. C'était Yoshiyahu. Alors, comment se fait-il que ça n'a pas marché? D'accord? Alors, ça, c'est la plainte du prophète Jérémie, qui était vivant du temps où ça s'est passé. Il dit la chose suivante. Tzadik ata Hashem, tu es juste, ô éternel, qui arrive Elecha pour que je querelle avec toi. Ach mishpati madaber otar, mais je demande la justice avec toi. Madoua derech reshaim talecha. Pourquoi est-ce que le chemin des méchants réussit? Chalou, ils sont dans la paix. Kol bogede baged, tous les traîtres. Netartam, tu les as plantés. Gamshorashu, ils ont également fait des racines. Yelchou, gam asuperi, ils vont en faisant des fruits. D'accord? Le prophète donc se plaint de ce que les méchants réussissent et les justes ne réussissent pas. C'est la grande question bien connue de Tzadik Zeralo, Racha Vetovlo. C'est ça? Comment se fait-il que le Tzadik il souffre et que le Racha soit dans le bien, soit dans le bon? Mai Hadroulé, qu'est-ce que Dieu lui répond? Qui est Raglim Ratta Vayal Ucha. Tu as essayé de courir avec des piétons, et ils t'ont fatigué. Ve'er titharé et asusim. Comment pourrais-tu faire la compétition avec les chevaux? Ve'er et shalom atabotear. Lorsque le pays est tranquille, es-tu vraiment en sûreté? Ve'er ta'ase bigon ayarden. Comment ferais-tu lors de la crue du Jourdain? Donc, c'est-à-dire ce que Akadosh Baruch Hu répond en fait à Yirmiyahu, de quoi tu te mêles, tu ne veux pas comprendre, n'est-ce pas? De manière générale, d'accord? Il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre qui sont plus faciles, par exemple, et c'est comparé à la course à pied, avec des piétons. Tu n'as pas réussi, tu vas essayer de lutter contre les chevaux, qui courent beaucoup plus vite que toi, d'accord? C'est ça qu'il veut dire. Tu n'arrives pas à être tranquille dans un lieu tranquille, et alors dans la crue du Jourdain, ou bien dans les broussailles à côté du Jourdain, là où il y a des lions, tu vas te sentir à l'aise. C'est une sorte de calvachomer, on appelle. Alors, mais ça, c'est trop facile. Il y a une allusion quand même à quelque chose. Si la question qui est posée par Yirmiyahu a pour réponse quelque chose qui a rapport à la course à pied, c'est donc que la réponse est liée d'une certaine manière à la course à pied. Et c'est ce que la Gemara va expliquer par la suite. Mashal le'adam echad she'amar yachol ani larus shalosh parsaot lifnei asusim ben bitzai amaim. C'est comme un homme qui a dit « Je suis capable de courir 3 lieues en avance sur les chevaux dans un lieu marécageux. » Nisdamen lo ragli echad est arrivé un piéton. Rak lefana shalosh milin bayabasha venila. Il a couru 3 milles dans un terrain sec et il fut fatigué. Hamroulo, on lui a dit « Uma lifne ragli kar. » Et si tu, ça t'arrive comme ça avec un piéton, l'ifne asusim, alahat kama vechama, à plus forte raison devant les chevaux. Uma, shelochet, milin, kar, shelosh, parsaot, alahat kama vechama. Alors si c'est 3000 que c'était comme ça, alors pour 3 lieux, à plus forte raison. Uma, bayabashakar, et s'il en est ainsi dans le terrain sec, ben bitsay amaim, alahat kama vechama, dans un terrain marécageux, à plus forte raison. Afata. Alors de même, dans ta question à toi, c'est-à-dire que c'est Dieu qui répond à Jérémie. Uma bisrar arba pesiaot shilamti leoto racha sherat sahare kevodi atatamer. Comment? Tu t'étonnes de la récompense, du salaire que j'ai donné à ce méchant qui a couru en mon honneur 4 pas. Keshani meshalem sahar le Avraham, Yitzhak ve Yaakov shiratsu lefanai kasusim. Alors, à plus forte raison sera grand le salaire que je paierai à Avraham, Yitzhak et Yaakov qui ont couru devant moi comme des chevaux. De quoi s'agit-il? Aïnou dirtiv, c'est ce que dit le texte. La nevi'im nishbar libi bekirbi. Pour les prophètes, mon cœur est brisé en moi. Rahafu kol atzmotai, tous mes ossements sont ébranlés. Haïti keishikor, je suis comme un homme ivre, ou regever avaro yain, et comme un homme dépassé par le vin. Mipene Hachem ou mipene divrei kotcho, à cause de Dieu et de ses saintes paroles. Hane arba pisiot maï, c'est quoi cette histoire des 4 pas? On va chercher donc quel est le mérite de Nebuchadnezzar. Ça veut donc dire que si Nebuchadnezzar a été capable de détruire le temple, c'est qu'il avait un mérite. Le mérite, on va voir, c'était le mérite de son père. C'est-à-dire que, contrairement à Sanhérive, qui vient au nom de la force brutale, et donc il ne peut pas vaincre la force de l'esprit représentée par Chizkiyahu Melech Yehuda, eh bien, par contre, Nebuchadnezzar, lui, vient au nom d'une supériorité morale qui lui permet de dominer Israël. C'est quoi cette supériorité morale? Dirtiv, ainsi qu'il est dit. Ba'et ahi shalach merodach baladan ben baladan meir bavel sefarim vegomer. En ce temps-là, Merodach baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya des livres. C'est qui ce Merodach baladan ben baladan? C'était le roi de Babylone. C'est à quelle époque? Au temps de Chizkiyahu. Donc Chizkiyahu, c'est quelque chose comme un siècle avant les événements dont nous parlons. Un siècle auparavant, il y a eu la victoire contre Sanhérib, et donc l'empire assyrien a commencé à s'ébranler. Un des pays qui était sous la domination assyrienne, c'était les Babyloniens. Les Babyloniens se sont révoltés, probablement de concert avec Chizkiyahou. Et donc, à l'époque, quand le roi de Babel, Merodach Baladan, Ben Baladan, entend la victoire de Chizkiyahou, il envoie une délégation avec des livres chez Chizkiyahou. Chizkiyahou se laisse épater par eux, il leur montre tous ses trésors. Oui, il se dit, voilà, des gens sont venus de loin, d'un pays lointain, de Babel, pour voir mon royaume. Alors il leur montre tous les trésors qu'il avait dans son palais. Le prophète arrive, le prophète Ishaïa, il dit, qu'est-ce que ces gens-là ? Il dit, oh, mais Eretz Rechoka Baou, ils sont venus d'un lointain pays de Babel. Alors le prophète lui lance, si c'est comme ça, sache que tes descendants seront des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Pourquoi ? Parce que tu as démontré ici une faiblesse qui t'a tenté dans le fait d'être accepté dans la communauté internationale. Ça t'a fait de l'effet. N'est-ce pas ? Ça t'a fait quelque chose que les Babyloniens s'intéressent à toi. Ça veut donc dire que tu veux t'insérer dans ce qu'on appelle le village global. D'accord ? Eh bien, puisque c'est comme ça, c'est le début de ta fin. C'est-à-dire que plus tard, ça en arrivera là.
Comment il faut qu'Israël soit tellement coupé du
monde ? Non, mais on n'a pas besoin de montrer les trésors. C'est-à-dire, il a montré ce qui se cachait à l'intérieur. Donc, il n'avait plus de pudeur. C'est-à-dire, quand on ne montre pas tout ce qu'on a. D'accord ? Il devait avoir des relations cordiales, mais pas les introduire dans l'intériorité de l'intériorité. Et donc, et tout ça pourquoi ? Parce que Chizkiyahou avait été malade et qu'il s'était guéri. Mishum ki halach Chizkiyahou vayachezak shadar les sfarim ou mincha. Quoi ? Seulement parce que Chizkiyahou était malade et s'est guéri, il lui a envoyé des livres et des présents. Alors la Gemara dit non. L'idrosh hamofet asher haya baaretz. Pour s'intéresser au miracle qui avait eu lieu sur la terre. C'était quoi le miracle ? De'amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan disait, Oto ayom shemet bo Ahaz, le jour où Ahaz était mort, shte sha'ot haya, était un jour de 2 heures seulement. Ahaz, c'était le père de Chizkiyahou. Lui aussi était idolâtre. Il était donc racha. Pour que son enterrement ne se fasse pas en grande pompe, le soleil s'est couché plus tôt. Donc le jour a duré 2 heures. Ça ? Donc il manquait 22 heures au soleil. D'accord ? Bon. Ce qui s'est passé, et lorsque Chizkiyahou est devenu malade et a guéri, alors Dieu a ramené... Ah non, pas 22 heures, il manquait 10 heures. Bon, 10 heures. Dieu a ramené les 10 heures en arrière, n'y allait, devant lui. Bah oui, il y avait 2 heures de la journée, pas 20. C'est pas que.
Ah, oui,
de la journée. La journée, c'est 12 heures. D'accord ? Donc, il manquait 10 heures. Les 10 heures ont été rétablies. Et donc, on a vu le soleil rester longtemps dans le soleil, dans le ciel. Et donc, Merodach Baladan, Ben Baladan, a vu cela. Il a su que c'était à cause de Chizkiyahou. Donc, il s'est intéressé. Il a envoyé une délégation pour s'intéresser à ce personnage miraculeux qui est capable de ramener le soleil en arrière. Je n'en sais rien. Okay. Il y a un certain Velikovsky qui prétend que c'est historique. Oui, il y a un astronome, enfin, un scientifique, disons, de Emmanuel Velikovsky, qui est juif d'ailleurs, un ami d'Einstein, qui prétend que toute la chronologie égyptienne et grecque telle qu'elle est enseignée dans les écoles est fausse, que tous les événements relatés par la Bible sont vrais. Il explique ça par une collision entre planètes, des tas de choses qui se sont passées. Il explique également la colonne de feu qu'ont vu les enfants d'Israël lors de la sortie. Tout ça, il explique pour des raisons cosmologiques. Et il prend les témoignages des civilisations anciennes, y compris celle d'Israël, comme étant véritables. Entre autres, cette histoire de Chizkiya, il la cite aussi. D'accord ? Alors, il a des tas de théories très intéressantes, non prouvées, mais non réfutées non plus. D'accord ? D'ailleurs, il s'est entretenu avec Einstein de ces choses-là. Einstein rigolait un peu, mais il n'a pas réfuté. D'accord ? Donc, peut-être, si on adopte la thèse de Velikovsky. Mais ce n'est pas forcément comme ça. D'accord ? Bien qu'il y a un texte maya qui parle d'un moment de leur histoire, il y a très longtemps, où il y a eu une nuit plus longue que d'habitude. Et ça correspond à l'époque de Yehoshua, où chez nous, il y a eu un jour plus long que d'habitude. Bon. Et donc, c'est difficile à admettre, parce que ça signifierait qu'il y aurait la rotation de la Terre se serait arrêtée. Ce qui est fortement improbable, parce que si la rotation de la Terre s'arrête, eh bien la Terre éclate. D'accord ? La Lune s'écrase sur la Terre, des tas de choses. Et donc, ça ne tient pas tellement debout, cette histoire.
Une éclipse,
à savoir, peut-être, 3 jours. Bon, enfin, il y aurait des choses à expliquer. C'est qu'ici, ça s'est passé. Bon, peut-être qu'un nuage a caché les choses. En tout cas, le Maharal de Prague a une autre idée tout à fait différente. D'après le Maharal de Prague, ben alors là, vous allez dire, c'est absolument incroyable. Quand le soleil s'est arrêté pour les enfants d'Israël lors de la bataille de Givron, eh bien, le soleil s'est couché pour les Cananéens. C'est-à-dire que le jour n'était plus long que pour les Hébreux, pas pour les Cananéens. Hein ?
Comme en Égypte.
Alors, ça veut dire que le miracle est fonction du degré de perception, je ne voudrais pas dire de subjectivité, mais enfin de perception de celui qui est l'objet du miracle. Et bon, alors, Maharal a toute une théorie pour expliquer qu'en vérité, le soleil est toujours au milieu du ciel pendant 6 heures, pendant 12 heures même. Oui, parce que, il dit un truc comme ça, si on fait la moyenne des différentes positions du soleil pendant la journée, alors on arrive à une moyenne qui est que le soleil est au milieu du ciel, n'est-ce pas ? Donc ça veut dire qu'on peut dire que le soleil pendant 12 heures a fait une trajectoire de ce genre, mais on peut dire aussi qu'il était pendant 12 heures en moyenne au milieu du firmament. Bon, ça n'a aucune importance parce que c'est qu'une moyenne, c'est pas la réalité palpable. Mais c'est une réalité, si l'on veut, métaphysique. Elle a été perçue par les enfants d'Israël au moment de la guerre de Givon, puisqu'ils étaient l'objet du miracle, et donc pour eux, le soleil a continué à briller pendant 12 heures. Voilà, c'est ce que dit le Maharal. Bon, ça peut vous convaincre, pas vous convaincre, mais enfin, c'est-à-dire, ce que veut dire le Maharal, c'est qu'il y a deux ordres parallèles dans le monde, l'ordre de la nature et l'ordre du miracle, et qui ne sont pas forcément interpénétrés. Alors, d'une certaine manière, ce que dit le Maharal est plus incroyable, d'un autre côté, est plus croyable. Tout dépend comment est-ce qu'on interprète. D'accord ? Bon, alors, là, donc, il est probable que cette histoire d'arrêt du soleil a concerné l'ensemble de l'humanité, puisque Bérodar Baladan s'intéresse à ça, et donc il envoie quelqu'un pour savoir ce qui s'est passé. D'accord ? Bon. Dirtiv, ainsi qu'il est dit, « Il est ni meshiv et tel ma'alot, asher yardav et ma'alot achaz vashemesh achoranit, Esser ma'alot, vatashov vashemesh, esser ma'alot, vamalot asher yardav. » Donc, c'est le verset qui racontait dans le livre de Yeshayahu que il y a eu 10 degrés de retour. D'ailleurs, ce verset n'est pas très clair non plus. Bon. Amarle Maihai. Il a demandé, le roi, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Amroulo, Hizkiyahu, Halash Vihitpar. C'est à cause de Hizkiyahu qui était malade et qui a guéri. Amar, Ika Gavra Kihai, Vela Baina, Leshadure Leshlama. Comment il y a un homme de cette envergure, et je ne lui dirai pas bonjour, qui te voulait Shlama ? Alors écrivez-lui. C'est-à-dire, le roi Merodach Baladan. Baladen, Ben Laden, envoie une lettre à Hizkia. Alors il dit comme ça, Shlama le Malka Hizkia, bonjour au roi Ézéchias, Shlam le Karta d'Yerushalem, paix pour la ville de Jérusalem, Shlam le Elaha Rabba, et paix pour le grand Dieu de Hizkia. Alors maintenant il y a un petit problème, c'est que il met Hizkia et Jérusalem avant Dieu. C'est pas bien. Nebuchadnezzar s'affrait de Baladan Ava Haïsharata. À ce moment-là, Nebuchadnezzar était le scribe, le secrétaire.
Son fils ou pas ?
Et c'était son fils, peut-être. Il était, en tout cas, il avait le rôle de secrétaire du roi. La Ava Hatam, mais à ce moment-là, il n'était pas là-bas. Kiata, Amar Lehu et Rikadvitu. Quand il est arrivé, il a demandé au secrétaire qui était présent, comment vous avez écrit ? Amroule Rikadvitu. Ils lui ont dit, c'est comme ça qu'on a écrit. Amar Lehu, Kritule, et là, Rabba, Vekatoule, les Bassov, vous l'appelez un grand Dieu et vous le mettez à la fin. Et là, Hachiktovu, alors il faut écrire autrement. Shlam, paix, les Laha Rabba, Shlam, les Karta d'Yerushalem, Shlam, les Makar Hizkia. Amroule, et on lui a dit, Kariana Digarta, et vous levez par 24, puisque c'est toi qui t'intéresses à ça, occupe-toi-en. Rahat Batre, alors il a couru après l'émissaire qui était déjà parti. Kidrahit Arba Pesiaot, quand il avait couru 4 pas, Atta Gabriel veut Okme. Gabriel l'a arrêté. L'ange Gabriel est arrivé pour arrêter Nebuchadnezzar. Pourquoi ? Je ne veux pas qu'il ait du mérite. Gabriel, c'est toujours le patriote parmi les anges. C'est celui qui est pour Israël. Et donc, il a peur de l'abondance, de l'amoncellement de mérite chez les nations. Donc, il arrête Nebuchadnezzar. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan disait, il m'allait ba Gabriel ve'aimido. Si Gabriel n'était pas venu pour l'arrêter, loi yatakana le sonem chez Israël. Jamais Israël n'aurait pu s'en sortir. D'accord ? Et Maï Baladan, Baladan ben Baladan, pourquoi est-ce qu'on l'appelait Baladan, fils de Baladan ? Amré, on a dit, Baladan, Malkahava, le père de Merodach Baladan, qui s'appelait également Baladan, était roi. Vishtane ape ve'ava ki kalba, son visage a changé, est devenu comme celui d'un chien. Ki ava yati ibere al malchutea, et donc on a mis son fils à sa place. Qui ava kativ, ava ktiv, shme ou shme de aboua, Baladan Malka. Il écrivait son nom et le nom de son père, Baladan le roi. Haïnou dirtiv, c'est pour ça qu'on dit Ben Yichabed Av et Aïved Adonav. Ben Yichabed Av, un fils honore son père, c'est ce que nous avons dit, Adamaran, Ve'aïved Adonav, et le serviteur respecte son maître, dirtiv, ou va chodesh achamishi, be'asor la chodesh, lors du cinquième mois. C'est quoi le cinquième mois? Av. Be'asor la chodesh, lors du dixième du mois, c'est quoi? Le 10 Av. Hi shnat tcha'esre shana la melech Nebuchadnezzar melech Babel, qui était la 19e année de Nebuchadnezzar, roi de Babel. Ba Nebuzar Adan Rav Tabachim, omed lifne melech Babel Birushalayim, va'isrof et bet Hashem et bet Amelech. Et il a brûlé la maison de Dieu et la maison du roi. Alors, comment se fait-il que Nebuzaradan et a brûlé le temple en présence de Nebuchadnezzar, alors que Nebuchadnezzar n'était pas là? Mais on dit qu'il avait un tel respect pour Nebuchadnezzar, c'est ce que nous allons voir par la suite, dans la page à venir. Il avait un tel respect pour Nebuchadnezzar qu'il avait l'impression que Nebuchadnezzar était là. Donc on voit que chez les Babyloniens, il y a un double respect. Il y a un respect des parents et il y a un respect des maîtres. Et c'est ce respect qui a entraîné également le respect de Dieu chez Nebuchadnezzar, qui fait que lorsqu'Israël manque de respect envers son père, qui est son père céleste, alors il peut être dominé par les Babyloniens. Pour ce qui est de la deuxième page, elle n'est pas photocopiée, nous la verrons, Bezrat Hashem, la prochaine fois. J'espère qu'elle sera photocopiée. Baruch Adonai, il est en lame. Amen, amen.